Donc n'hésitez pas à m'interrompre, mais oralement, parce que je ne vois rien d'autre sur l'écran que mon PowerPoint, je ne vois pas les messages éventuels. Je vous propose d'organiser, de structurer mon exposé en 5-6 points. Un premier évident, mais pour contextualiser simplement géographiquement, politiquement et même socialement le cadre d'émergence de ce mouvement zapatiste. Un deuxième point où je présenterai en 4 étapes un peu arbitraires les plus de 25 ans finalement que le zapatisme a derrière lui d'expérience d'autonomie. Donc depuis le 1er janvier 1994, donc date du soulèvement zapatiste jusqu'à aujourd'hui, plus de 25 ans se sont passés et je vais organiser cette histoire, cette trajectoire en 4 étapes. Et puis ensuite j'aborderai 4 questions controversées, 4 débats qu'on a eus et qu'on a toujours d'ailleurs régulièrement autour du mouvement zapatiste. La question de l'originalité du mouvement zapatiste, en quoi elle consiste. La question de la manipulation, qui peut paraître une question ancienne, mais elle est à chaque sortie médiatique du zapatisme, et encore récemment, dans la presse mexicaine, cette question ressort. La question de l'instrumentalisation du mouvement indigène par une extrême gauche internationaliste en perdition. C'est un thème récurrent depuis le 1er janvier 1994 jusqu'à ces derniers jours encore dans la presse mexicaine. Je vous en dirai un mot. La question du rapport aux politiques de la rébellion. Comment il a évolué? Comment peut-on le caractériser? Et enfin, la question sur laquelle j'essaierai de m'attarder un peu plus longtemps, même si les informations sont lacunaires pour la traiter de manière approfondie, la question de la durabilité, de la viabilité de ce régime d'autonomie de fait dans lequel les communautés, les villages zapatistes vivent aujourd'hui. Voilà, donc premier point, je ne vais pas faire l'injure de situer le Mexique, mais quand même vous redire que le Chiapas, l'État du Chiapas, il est au Mexique, c'est un des 32 États mexicains, et que le Mexique... C'est, comme vous le savez, une grande puissance démographique, géographique, économique. C'est la 12e économie mondiale tout de même. C'est aussi la première puissance commerciale de l'Amérique latine, en raison notamment de son commerce avec l'Amérique du Nord, les États-Unis en particulier. 80% des exportations mexicaines vont vers les États-Unis. Cette tendance a été boostée, comme vous le savez, à partir du milieu des années 90, des années 90, pardon, au moment de la signature des accords de libre-échange nord-américains, dont la date, l'entrée en vigueur des accords de libre-échange nord-américains, je vous le rappelle, la date coïncide avec le soulèvement zapatiste ou l'inverse, donc le 1er janvier 1994. Donc ces accords de libre-échange ont évidemment boosté les exportations mexicaines et boosté les investissements étrangers dans tout le Mexique, mais ont aussi créé énormément de pertes d'emplois et une déstructuration assez désastreuse de l'agriculture mexicaine notamment. Mexique, c'est aussi un pays très violent, c'est pas un cliché, c'est une réalité. Depuis 2006, c'est le début de la guerre des drogues ou la guerre contre les narcotrafiquants déclenchée par le président Calderón à l'époque et puis suivie par Peña Nieto et aujourd'hui López Obrador. Depuis 2006, donc on dénombre quelques 300 000 morts au Mexique de cette guerre entre groupes, entre narcotrafiquants, l'État, l'armée, etc. L'année 2019, d'ailleurs, a été la pire depuis plus de 20 ans, avec 35 000 homicides. Donc 2019, c'était l'année dernière ou presque. Donc sur cette carte, rapidement, vous voyez, c'est une carte sur les taux de pauvreté dans les différents États mexicains. Je vous le dis rapidement, il y a vraiment une coïncidence assez forte entre les zones de forte population indigène au Mexique et les zones les plus pauvres. Vous voyez que c'est le sud, ce que les zapatistes appellent le Mexique d'en bas, là où on trouve les plus hauts taux de pauvreté. C'est aussi là qu'on trouve les plus hauts taux de population indigène. Pour rappel, le Mexique, c'est le premier pays indigène en nombre absolu d'Amérique latine. Ils sont entre 15 et 20 millions d'indigènes au Mexique pour 45 à 50 millions d'indigènes sur toute l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'un indigène latino-américain sur 3 est mexicain. On calcule qu'il y a 50 à 60 peuples indigènes au Mexique qui vivent encore aujourd'hui. La question de l'identification, de la quantification, de la qualification indigène, évidemment, reste très controversée. Je ne vais pas l'approfondir ici, je n'ai pas le temps, mais en fonction des critères qu'on emploie pour identifier ce qu'est un indigène, critères structuralistes, critères culturalistes, critères historiques ou simplement sentiment d'appartenance, auto-identification, en fonction des critères mobilisés, on tombe évidemment sur des résultats, des estimations différentes, mais peu importe. Je vous ai donné les ordres de grandeur. Retenez que le Mexique est le premier pays en valeur absolue indigène de l'Amérique latine. Focus avec la diapositive suivante sur le Chiapas. Donc là, on est à la frontière du Guatemala. Voilà l'état du Chiapas où a paru donc la rébellion zapatiste. Ce qui en tout l'est de la carte, la moitié est de la carte, c'est la région de San Cristóbal de las Casas. C'est aussi la région d'influence zapatiste. Le Chiapas, c'est un peu plus de deux fois la Belgique en superficie, c'est 75 000 km² pour 5 millions d'habitants, dont un tiers, plus ou moins, sont des indigènes. Donc 1,5 million d'indigènes, surtout des Mayas, mais pas uniquement, au Chiapas. On estime également que 500 000 Chiapanecs, donc un dixième de la population, vivent aux États-Unis. La région qui va nous occuper plus spécifiquement, c'est donc toute la partie droite de cette carte, c'est l'est du Chiapas, qui est aussi, encore une fois, la région la plus pauvre, comme les couleurs l'indiquent ici. Hein, c'est l'indice de développement humain. Il est plus faible dans l'est du pays, dans cette région essentiellement indigène, comme on va le voir dans la diapositive suivante. Mais avant ça, redire que le Chiapas, vraiment, l'image qu'on en a au Mexique, c'est ce slogan qui est régulièrement répété, n'est pas seulement une caricature, c'est vraiment une réalité. C'est l'État le plus riche du Mexique, avec la population la plus pauvre. L'État le plus riche en ressources naturelles, 50% de la consommation nationale d'hydroélectricité est produite dans le Chiapas. Alors que 40% de la population chiapanèque, donc 12e puissance économique mondiale, 40% de la population chiapanèque vit toujours sans électricité. 35% de la production nationale du café mexicain est produit dans le Chiapas, un état riche également en minerais divers, en élevage, en bois précieux. Il y a encore pas mal de forêts là, surtout sur l'est du territoire. En gaz naturel, c'est un quart à un cinquième de la production mexicaine provient du Chiapas. En pétrole, 6% de la production nationale. Et la biodiversité également est encore très importante dans le Chiapas. Bref, un état riche en ressources naturelles pour une population très pauvre. Une structure sociale injuste, caricaturale, encore qualifiée ou caractérisée de féodale jusqu'aux années 70, 80, avec des formes de quasi-servage qui prédominaient encore dans les régions rurales. Formes qui ont été progressivement remplacé par la pénétration du capitalisme transnational, un capitalisme de prédation, un capitalisme de méga-projets d'investisseurs extérieurs qui exploitent aujourd'hui la terre du Chiapas d'une autre façon. Une autre caractéristique du Chiapas à avoir à l'esprit pour comprendre ce qui va suivre, c'est le racisme. Il est très très fort, il est toujours très fort. Et le tourisme, d'une certaine façon, est la manifestation la plus visible de ce racisme chiapanèque. La civilisation indigène, la civilisation maya, pour l'essentiel, est une civilisation muséifiée. Les Mayas, c'est le décor humain, ou plutôt leur civilisation du passé, le décor humain. Leur civilisation actuelle intéresse peu de monde. Les indigènes y vivent vraiment un apartheid de fait. Et donc, vous avez vu dans la carte précédente que la pauvreté, selon les chiffres de la CEPAL, donc la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine, estime que la pauvreté y atteint 3 personnes sur 4. En réalité, même les chiffres que j'ai, c'est 75% des Chiapanèques sont pauvres en 94, et en 2018, ils étaient 80%. Donc, la pauvreté s'est accrue, le pourcentage de pauvreté s'est accru au Chiapas ces dernières années. Pareil pour la malnutrition, un Chiapanèque sur deux, selon la FAO et l'UNICEF, pour les gosses, souffrent de malnutrition. La même carte du Chiapas, avec la répartition de l'essentiel de la population indigène, je vous l'ai dit, c'est essentiellement une population maya. Les Tseltal, les Tzotzil, les Tchol, les Torolabal sont des Mayas, les Zoks font partie d'un autre grand groupe ethnique. Et encore une fois, retenez de ces cartes qu'il y a une coïncidence très très forte entre les régions les plus pauvres de l'État, les régions indigènes. Vous voyez, vraiment, les indigènes sont concentrés dans la moitié est, disons nord-est du Chiapas, et la zone d'influence du zapatisme d'aujourd'hui. Ça coïncide presque au kilomètre carré près. Et j'ajouterai une quatrième coïncidence, c'est aussi la délimitation très précise du diocèse de San Cristóbal de Las Casas, à la tête duquel, jusqu'à peu, il y avait l'évêque Samuel Ruiz, un évêque proche de la théologie de la libération, qui était très actif dans les communautés indigènes depuis les années 70, qui a participé à la conscientisation des organisations indigènes, et qui n'est pas sans influence, évidemment, dans ce qu'est le mouvement zapatiste aujourd'hui. Encore une chose sur le Chiapas, c'est distinguer la région de Tzotzil en rouge. En fait, San Cristóbal de Las Casas, la ville principale de cette moitié est du Chiapas, on ne la voit pas sur la carte, mais elle est située en bas de la pointe de la flèche dans la région rouge, en bas de la pointe de la flèche Tzotzil. Donc là, San Cristóbal, elle est située plus ou moins au milieu. Donc, comme vous voyez, donc le nord de San Cristóbal de Las Casas sont des hautes terres, on les appelle Los Altos, les hauts plateaux du Chiapas. On est entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, important à avoir à l'esprit pour la suite. Tandis que la zone jaune et verte, là, c'est plutôt les vallées, les basses terres, les terres chaudes, comme ils les appellent là-bas. Et ces terres chaudes étaient pratiquement vides encore de population jusqu'aux années 60-70. Et en raison de la densité excessive de population dans la zone rouge et bleue, le gouvernement, dans les années 60-70, a ouvert cette région du sud-est comme une soupape démographique, en poussant les indigènes des zones rouges et bleues à migrer vers les zones jaunes et vertes, ce qu'ils ont fait en partie. Et donc retenez cette idée de migration qui a joué un rôle dans l'émergence du zapatisme. Donc le deuxième point, c'est aller rapidement caractériser en quatre étapes l'histoire du soulèvement zapatiste depuis le 1er janvier 1994 jusqu'à aujourd'hui. Bon, le premier épisode fameux, c'est évidemment la nuit de la Saint-Sylvestre de 1994, c'est la gueule de bois au Mexique, c'est la surprise spectaculaire, quelques milliers d'indigènes non cagoulés. La cagoule, pour l'anecdote, va devenir un symbole par la suite, un symbole paradoxal de reconnaissance d'ailleurs. Mais le 1er janvier 1994, comme vous le voyez sur la photo de gauche, la plupart des zapatistes n'étaient pas cagoulés. Seul Marcos, là, vous voyez sur la photo de droite, l'était, mais sans vraiment cacher l'essentiel de son visage. Bref, donc quelques milliers d'indigènes non cagoulés, très faiblement armés, la plupart avec des vieilles pétoires et d'autres avec des bouts de bois, vont occuper quatre grosses agglomérations du Chiapas, dont San Cristobal, qui est vraiment le centre de cette région-là, qui est une ville très courue, très, très, très centrale. En diffusant une déclaration de guerre qu'on va qualifier de suicidaire par la suite, parce que de fait, elle avait les accents suicidaires, cette déclaration de guerre, une déclaration de guerre à l'État mexicain, au gouvernement mexicain. Les zapatistes décident de marcher sur Mexico, ont pour objectif, en tous les cas, dans cette déclaration-là, de marcher sur Mexico et parient sur un phénomène de contagion pour que les Mexicains se joignent à leur lutte et aillent renverser le gouvernement mexicain, pour instaurer au Mexique un État, un gouvernement socialiste. C'est le contenu de la première déclaration des zapatistes du 1er janvier 1994. Au-delà de ça, leur slogan en phare, c'est liberté, justice, démocratie. Et plus concrètement, nous revendiquons une terre, nous revendiquons un toit, de l'alimentation, de l'éducation, de la santé, du travail. Et tout ça résumé en un mot qui va devenir vite central dans leur mobilisation, c'est la question de la dignité. La dignité enfin demandée par les zapatistes. Donc, très vite, donc dès le 2 janvier, une partie des zapatistes vont se replier dans leur village, d'autres ne vont pas pouvoir éviter le conflit armé avec l'armée mexicaine qui débarque pour réprimer évidemment ce soulèvement. Et donc, en quelques jours, là, il va y avoir quelques affrontements qui vont faire tout de même 400 morts. Et dans les jours qui suivent, une formidable mobilisation de la société civile mexicaine et internationale également. Le mouvement va tout de suite avoir un fort mouvement de sympathie à son égard, qui va pousser le président mexicain, Carlos Salinas, à l'époque, a décrété un cessez-le-feu le 12 janvier 1994, que les zapatistes vont accepter d'une certaine façon. Et depuis lors, il n'y a plus d'échange armé officiel entre l'armée zapatiste et le gouvernement mexicain. Ce ne sont pas tous les indigènes qui se mobilisent ce jour-là, évidemment, c'est une minorité agissante, c'est surtout une nouvelle génération, souvent en rupture de ban avec les unanimismes communautaires des communautés indigènes. C'est une nouvelle génération brassée, émigrée. Je vous ai parlé tout à l'heure du passage des Hautes-Terres aux Basses-Terres. Ce sont des gens d'ethnies différentes, donc des Tzotzil, des Tseltal, des Torolabal, etc., qui sont tous mayas, mais qui ont des langues différentes, et donc entre eux, souvent, la plupart du temps, ils communiquent en espagnol. C'est une nouvelle génération modernisée, vont dire les anthropologues, objet d'influence multiple, évidemment. On a croisé dans le Chiapas, depuis les années 70, des militants de toutes les gauches mexicaines, des maoïstes, des militants urbains guévaristes auxquels appartient le sous-commandant Marcos, des organisations paysannes, des syndicats, l'Église. Je vous ai déjà dit, Samuel Ruiz et ses animateurs et ses organisations vont être très actifs dans la conscientisation, dans l'organisation des populations indigènes du Chiapas dès les années 70. Eh bien, cette génération-là, donc objet d'influences multiples, bloquée dans son processus d'émancipation par une série d'obstacles structurel d'abord, donc c'est le conservatisme des élites du Chiapas, c'est le racisme, c'est la répression, c'est la libéralisation, mais aussi des obstacles conjoncturels qui vont précipiter le basculement du 1er janvier 1964. Les obstacles plus conjoncturels, c'est la chute du prix du café sur les marchés internationaux fin des années 80, qui va avoir un impact désastreux dans le Chiapas. Je vous ai dit, c'est un grand producteur de café. Et plus récemment, enfin plus à une date plus rapprochée du soulèvement du 1er janvier, c'est cette réforme constitutionnelle qui est une condition pour que le Mexique puisse signer les accords de libre-échange nord-américain, cette réforme constitutionnelle qui signe la fin d'une des dernières caractéristiques constitutionnelles de la révolution mexicaine du début du XXe siècle. C'est une réforme constitutionnelle qui libéralise les terres communales indigènes, ce qu'on appelle là-bas les rideaux. Les rideaux, c'est une terre communale inaliénable, avec droit d'usage individuel, mais c'est la forme de propriété principale qui prévaut dans les communautés indigènes. Et cette réforme constitutionnelle, donc comme condition à l'entrée du Mexique dans l'ALENA, signe la fin de cette, signe la possibilité, la mise en vente, la possibilité de mettre en vente, de mettre sur le marché ces rideaux. Donc la libéralisation, d'une certaine façon, des terres communales inaliénable jusque-là. Bref, l'ensemble de ces facteurs va précipiter cette nouvelle génération-là dans le soulèvement armé, dans ce basculement, de ce recours aux armes qui est le résultat, on le sait maintenant, d'une décision majoritaire au sein des militants zapatistes, évidemment, mais pas d'une décision unanime. Et les sociologues expliquent très bien, me semble-t-il, en quoi ce 1er janvier 1964 est plus le résultat d'un empêchement d'un mouvement social que son aboutissement ou que son apothéose. C'est aussi une tendance continentale, hein, dans toute l'Amérique latine, en Équateur d'ailleurs, avant le Mexique, comme effet ambivalent du double processus de libéralisation politique et de libéralisation politique que va traverser le continent dans les années 90. On va voir surgir une série de mouvements indigènes qui profitent. Enfin, c'est le résultat à la fois de ces nouvelles exclusions créées par la libéralisation économique, donc par la pénétration d'un capitalisme qui repousse les frontières du capitalisme plus loin que là où elles arrivaient précédemment, donc qui touche des populations qui avaient été peu touchées jusque-là. Donc, un double processus de libération économique et politique qui ouvre à la fois de nouvelles exclusions, de nouvelles victimes, de nouvelles conflictualités, mais qui ouvre aussi de nouveaux espaces d'expression, d'organisation. Et ce contexte va favoriser l'émergence d'une série de mouvements indigènes dans beaucoup de pays d'Amérique latine, et donc notamment au Mexique. Deuxième période importante de l'EZLN, de la rébellion zapatiste, c'est 1994-2000, trois processus concomitants rapidement. C'est d'abord ce processus de dialogue, de négociation je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps, mais erratique, laborieux, compliqué, avec des hauts et des bas pendant plusieurs années entre le gouvernement et les zapatistes. La photo que vous voyez là, c'est le premier dialogue de la cathédrale. Au centre, avec les lunettes, le plus costaud, c'est le représentant du gouvernement. Sur la droite, le plus vieux, c'est l'évêque dont je vous parlais tout à l'heure, Samuel Ruiz. Et les gens avec les cagoules, c'est les commandants zapatistes et le sous-commandant Marcos, là, qui au micro. Donc, processus de négociation long et laborieux, avec des hauts et des bas, mais qui va tout de même déboucher en 1996, en février 1996, sur les seuls accords signés à ce jour entre le gouvernement mexicain et les zapatistes, c'est les accords de San Andrés, qui portent sur le premier des quatre thèmes de négociation sur lesquels les zapatistes s'étaient engagés à discuter avec le gouvernement. Et le premier des quatre thèmes de négociation, c'est les droits et les cultures indigènes. Les autres thèmes, c'est important de le signaler, mais qui n'ont jamais été débattus, c'est une table plus politique, donc autour des questions de démocratie et de justice, et puis une table plus économique autour du bien-être et du développement. Et le quatrième, c'était sur la question de l'égalité homme-femme. Bref, seuls accords signés à ce jour, et depuis lors, il n'y a plus de négociation, c'est février 96, sur les droits et les cultures indigènes. Deuxième processus concomitant durant cette période 94-2000, c'est cette guerre de basse intensité. Cette stratégie contre-insurrectionnelle que les autorités vont mener parallèlement au processus de négociation, en pariant sur le pourrissement de la situation d'une certaine façon. Les communautés indigènes, les groupes indigènes zapatistes sont harcelés par les militaires ou par les paramilitaires, et l'État s'adonne à une exacerbation des divisions, parfois préexistantes, au 1er janvier 1964. De divisions à l'œuvre dans les communautés indigènes, les divisions communautaires, les conflits religieux notamment, etc. Et le gouvernement fait ça notamment en injectant des capitaux sociaux, en construisant des infrastructures dans les communautés qui acceptent de se déclarer comme non-zapatistes, en créant des rivalités, des concurrences dans les villages. Bref, donc guerre de basse intensité. Et le troisième processus concomitant, c'est que pendant cette période, les zapatistes vont organiser une série de rencontres avec la société civile mexicaine et du monde entier. Et le zapatisme va également se faire connaître dans le monde entier par les communiqués du sous-commandant Marcos, hein, qui mélange les genres, vous le savez. Et ça, c'est inédit, évidemment, poétique, littéraire, humoristique, politique également, bien sûr, mais un ton très particulier qui va participer à la notoriété du mouvement zapatiste à l'échelle international. Donc, rencontre avec la société civile, ils vont en organiser beaucoup. La plus connue, la plus fameuse, qui a réuni pas mal de gens du monde entier, de France et de Belgique notamment, c'est cette rencontre intergalactique, comme ils l'ont appelée, pour l'humanité et contre le néolibéralisme. Pas contre le capitalisme, on va y venir par la suite, mais contre le néolibéralisme. C'est comme ça qu'elle s'appelait en 1996. Et qui va être une certaine façon, une rencontre précurseur, pionnière de ce que va devenir l'altermondialisme par la suite. Beaucoup des historiens de l'altermondialisme situent la première grande rencontre internationale de l'altermondialisme en 1996 dans le Chiapas à l'initiative des zapatistes. Troisième période clé, c'est un moment, c'est une année, c'est 2001, c'est la marche sur Mexico des zapatistes. 2001, c'est l'entrée au pouvoir de Vicente Fox, le nouveau président mexicain, qui pour la première fois depuis un peu plus de 70 ans, est issu d'un autre parti que le Parti révolutionnaire institutionnel qui a dirigé le Mexique depuis pratiquement la fin de la Révolution mexicaine, jusque 2000 donc. Et là, c'est un parti plus à droite encore que le PRI, et qui met fin à 70 ans de démocrature, comme on la qualifie, du PRI au Mexique. Un parti conservateur, libéral, sur le plan économique, le PAN, qui entre au pouvoir au Mexique en 2000. Et juste avant son élection, Vicente Fox, donc le nouveau président, dans sa campagne, va déclarer que le problème du Chiapas, il aura besoin d'un quart d'heure pour le régler. Marcos va le prendre au mot et décider une marche, enfin une marche, l'essentiel du chemin va se faire en car, mais en bus, mais en passant par une série de villes avant d'arriver au district fédéral, à Mexico. Donc Marcos le prend au mot et organise cette marche des zapatistes sur Mexico pour aller demander au nouveau gouvernement l'application des accords de San Andrés dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'avaient donc pas été appliqués jusque-là. Et donc c'est vraiment un moment très important dans l'histoire du zapatisme. Plusieurs centaines de milliers de personnes vont participer à ces différentes rencontres, et notamment la dernière, c'est la photo qui apparaît là sur votre écran, c'est celle sur le Zócalo, la place centrale de Mexico. C'est vraiment le moment d'apothéose, de culmination du zapatisme au Mexique. À ce moment-là, des enquêtes disent que plus d'un Mexicain sur deux ont de la sympathie pour la cause zapatiste. C'est aussi l'aboutissement, donc la marche sur le Mexique. Les zapatistes vont aller eux-mêmes être demandés dans le Congrès, c'est la photo de droite, face au Parlement, à la Chambre des députés et face au Sénat. Ils vont aller demander l'application des accords de San Andrés, moment symbolique d'une importance considérable. Cette photo-là ne vous dit peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais en 2000 au Mexique, dans cet endroit, donc le Congrès blanc, urbain, universitaire, c'est une femme indigène, c'est la commandante Esther, une indigène, femme. C'est important, c'est vraiment symboliquement considérable, qui va aller demander l'application des accords de San Andrés. À ses côtés, c'est une traductrice de la langue tzotzil de la commandante Esther vers l'espagnol mexicain. Quatrième et dernière étape de ce périple, c'est depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, disons, repli autogouvernement et Épedine. Donc, déçus, les zapatistes déçus par la non-application. Donc, cette marche sur le Mexique, vous le savez, elle ne va pas aboutir. Le Congrès, après la visite de la commandante Esther, va voter une réforme institutionnelle, une réforme constitutionnelle, pardon, mais qui sera largement en deçà du contenu des accords de San Andrés. L'autonomie pour les populations indigènes, les indigènes comme sujet de droit, l'accès à la terre et d'autres dimensions importantes qui étaient dans les accords de San Andrés ne seront pas appliquées dans cette réforme constitutionnelle. Donc, non-application des accords de San Andrés, ça va évidemment décevoir énormément les zapatistes, parce que c'est cette réforme constitutionnelle qui trahit les accords de San Andrés va être votée par l'ensemble de l'éventail politique mexicain, le PRI, le PAN et aussi le PRD, qui était la gauche à l'époque politique mexicaine. Mais les zapatistes déçus également par pour le dire en une phrase, par le non-aboutissement de leurs multiples tentatives d'atterrissage sur la scène politique mexicaine. Ils vont en effet, entre 1994 et 2002, les zapatistes vont en effet multiplier les tentatives d'articulation, d'atterrissage politique sur la scène mexicaine en créant par exemple en 1994 la Convention nationale démocratique. Ils vont créer aussi le Mouvement de libération nationale. Ils vont créer aussi le Front zapatiste de libération nationale. Bref, X tentatives d'organiser au niveau national leur lutte en s'articulant avec d'autres secteurs de la gauche mexicaine. Aucune de ces initiatives ne va aboutir sur une réelle réussite. La seule réussite organisationnelle sur laquelle ils vont aboutir au niveau national, les zapatistes, c'est la formation d'un congrès national indigène qui regroupe donc les militants des différents peuples indigènes mexicains. Qui partagent la cause des zapatistes. C'est le seul aboutissement organisationnel politique réussi des zapatistes hors du Chiapas à ce jour. Et donc, déçus par ce double échec, les zapatistes vont décider de se replier sur leur zone d'influence, sur la quête de l'autonomie là où ils sont. On ne donne pas l'autonomie de droit, et donc on va profiter, on va tenter de construire cette autonomie de fait. Dans les centaines de villages dans lesquels nous sommes présents, dans les eux-mêmes qui font partie des 27 municipalités rebelles autonomes zapatistes, et à un troisième niveau, on va reparler tout à l'heure, ces 27 municipalités font partie de cinq grosses régions qu'on appelle les caracoles, donc cinq zones d'influence zapatiste. Repli relatif, encore une fois, car les zapatistes vont continuer, malgré eux, j'ai envie de dire, à lancer une foultitude d'initiatives publiques à intervalles irréguliers, des initiatives parfois controversées. Hein. Vous vous souvenez sans doute de l'autre campagne en 2005. Marcos va de nouveau sillonner tout le Mexique pendant la campagne électorale des élections présidentielles de 2006, en invitant les Mexicains à ne pas participer aux élections. Ce qui va être controversé évidemment au sein des différents secteurs de la gauche mexicaine, parce qu'à ces élections-là se présentait déjà López Obrador, l'actuel président mexicain, candidat de gauche, qui n'a pas reçu l'appui des zapatistes et qui va perdre pour quelques voix qu'une partie de la gauche va attribuer, dont une partie de la gauche va attribuer la responsabilité aux zapatistes d'avoir fait perdre López Obrador. En réalité, c'est surtout des fraudes électorales, on va le voir par la suite, qui ont empêché López Obrador de déjà gagner les élections de 2006. Finalement, il va gagner celle de 2018. Bref, les zapatistes vont organiser encore plein d'autres initiatives publiques depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Le festival de la Digne Rage en 2009, le 21 décembre, je n'en cite que quelques-unes les plus spectaculaires d'une certaine façon, le 21 décembre 2012, je ne sais pas si vous en souvenez, mais une certaine presse avait décrété que le 21 décembre 2012 allait être le jour de la fin du monde, en raison justement de ce qu'ils avaient lu dans la mythologie, non pas dans la mythologie, mais dans les sciences, dans le savoir maya. Bon, il y a même un film qui a été tourné sur cette fin du monde prévue le 21 décembre 2012. Eh bien, c'est ce jour-là que les zapatistes vont choisir, après pratiquement 3 ans de silence, pendant 3 ans, ils n'avaient rien fait publiquement, ils vont choisir ce jour-là pour manifester dans les mêmes 4 villes qu'ils avaient occupées le 1er janvier 1994. 40 000 zapatistes silencieux vont défiler en silence, donc dans ces 4 villes, le 21 décembre 2012, sans que personne n'ait rien vu venir. En 2014, une autre initiative qui va faire beaucoup parler d'elle, c'est l'Escuelita Zapatista, donc la petite école zapatiste, à laquelle les zapatistes vont inviter les apatisants, les sympathisants du monde entier à venir vivre, c'est la photo de droite, une semaine avec eux pour comprendre de près comment ils vivent justement cette construction de l'autonomie, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, comment ils essayent de construire cet autre monde là où ils vivent, à défaut d'avoir pu le construire à l'échelle mexicaine. Parmi les nombreuses initiatives que les zapatistes ont également prises, la plus récente, vous en avez entendu parler, c'est celle qui annonce la visite d'une bonne centaine de zapatistes sur les 5 continents dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et la première visite, ce sera en Europe, ce sera à l'été prochain, l'été 2021. Visite donc des zapatistes sur le continent européen. Ce qui reste des comités zapatistes, pro-zapatistes de l'époque est aujourd'hui en effervescence, et j'en fais partie pour commencer à organiser cette visite zapatiste en Europe dans les prochains mois. Voilà donc rapidement, trop rapidement, un bref parcours. Venons-en à ces questions de débat, disons. La question de l'originalité, vraiment, elle est centrale parce que c'est un des qualificatifs qu'on a le plus employé pour tâcher de caractériser cette rébellion. L'originalité a beaucoup été célébrée, mais pas toujours pour les mêmes raisons à mes yeux, à les yeux de beaucoup d'autres observateurs, évidemment, mais cette rébellion est originale en cela qu'elle a jeté les bases d'une nouvelle perspective émancipatrice. C'est important, à mon avis, de la jeter les bases d'une nouvelle perspective émancipatrice au gré des circonstances, des événements, en fonction du rapport de force plus ou moins défavorable avec les autorités, en fonction des hauts et des bas du dialogue. Cette originalité s'est construite, cette nouvelle perspective émancipatrice s'est construite, et c'est vraiment une volonté d'affranchissement de différents types de domination, de toute forme de domination. C'est une combinaison dans les discours et les pratiques zapatistes, surtout dans les discours du sous-commandant Marcos, mais aussi, autant que faire se peut, dans les pratiques zapatistes, de différents registres d'aspiration à l'émancipation. Des registres anciens qu'on connaît très bien, hérités des luttes précédentes, et d'autres réactualisés, renouvelés ou plus récents. Ce que je vais vous dire va sans doute, encore une fois, vous paraître évident. Mais cette combinaison, fin des années 90 au Mexique, elle est totalement originale, inédite, même à l'échelle latino-américaine, par rapport aux mouvements révolutionnaires qui ont précédé, et ce qui fait donc l'originalité du mouvement zapatiste. Donc on retrouve dans ce cocktail d'aspirations multiples du mouvement zapatiste, d'abord une vieille aspiration, l'aspiration républicaine à la démocratie politique, à la citoyenneté. Une aspiration qui date du 19e siècle, donc elle n'est vraiment pas nouvelle, contre toute forme de domination politique. S'y ajoute bien évidemment l'aspiration socialiste très présente dans la première déclaration de guerre zapatiste, à la justice sociale, à l'égalité entre groupes sociaux, contre toute forme de domination sociale. La dimension chrétienne est également centrale, pas du tout dans le discours de Marcos, qui lui n'est pas chrétien, mais la grosse majorité des commandants indigènes zapatistes sont d'anciens animateurs des organisations dépendantes du diocèse de Samuel Ruiz, dont je vous ai parlé, donc d'aspiration à la libération sur Terre. La thématique de la Terre promise est très présente dans les discours des commandants zapatistes indigènes. Et d'ailleurs, l'organisation la plus présente, la plus surreprésentée au sein du mouvement indigène, c'est une organisation préexistante indigène qui s'appelle El Pueblo Creyente, et le peuple croyant. Aspiration tiers-mondiste également, à l'autodétermination, à la souveraineté sur le territoire, contre toute forme de domination coloniale, bien évidemment. L'EZLN, c'est comme ça que s'appelle la rébellion zapatiste, l'armée zapatiste, Armée zapatiste de libération nationale. Son nom est calqué sur les mouvements révolutionnaires qui ont précédé en Amérique centrale, le Front sandiniste de libération nationale au Nicaragua, le Front marti de libération nationale au Salvador, au Chiapas, c'est l'armée zapatiste de libération nationale. Aspiration anticapitaliste également, qui va s'affirmer progressivement, surtout à partir du début des années 2000, mais comme je vous l'ai dit, elle n'était pas très présente, voire absente au début. Aspiration au buen vivir, démarchandisé, au bien commun, contre toute forme de domination économique, on va y revenir aussi. Aspiration identitaire, elle est également centrale à la reconnaissance, à la diversité, à l'affirmation identitaire maya comme telle. Un des slogans clés du mouvement zapatiste, c'est « Nous voulons être reconnus égaux et différents ». Égaux et différents. Encore une fois, ça paraît évident aujourd'hui, mais l'articulation de ces deux adjectifs fin des années 90 au Mexique, c'est tout à fait novateur. Donc l'articulation du registre de la justice sociale et celui de la diversité culturelle, du registre de la redistribution à celui de la reconnaissance. L'aspiration féministe est également centrale dans le discours et dans les pratiques zapatistes, autant que faire se peut, encore une fois. Aspiration à l'égalité homme-femme, à l'égalité de genre, donc contre toute forme de domination masculine. La dimension environnementale, écologiste, est très présente. Le respect de l'environnement, de la terre-mère, contre toute forme de domination physique, d'exploitation, de technique de la nature. L'aspiration, et je termine, mais l'aspiration libertaire, autonomiste, la reconnaissance du sujet, le statut de l'individu dans le collectif, contre toute forme de domination communautaire, contre toute forme de domination étatique, cette dimension-là également très présente dans le cocktail zapatiste. Elles ne sont pas toutes présentes de la même façon au même moment, encore une fois. Dans la première déclaration zapatiste du 1er janvier 1994, elle était surtout socialiste. Il n'y avait pas une seule fois le mot indigène dans cette déclaration-là, pour l'anecdote, alors que la dimension indigène va devenir de plus en plus centrale au fil du temps. Il n'y avait pas une fois non plus le mot anticapitaliste dans cette première déclaration. Et donc, dans ce cocktail zapatiste, chaque chapelle sociologique, chaque chapelle politique va y reconnaître sa saveur préférée, d'où le succès du zapatisme à l'échelle internationale. Parfois d'ailleurs en négligeant les autres saveurs, voire en conditionnant son intérêt au zapatisme à l'abandon de certaines autres de ses caractéristiques. Je peux en parler dans le débat si vous voulez, j'ai des anecdotes savoureuses à ce propos, mais chacun y trouve son compte en insistant tantôt sur la question des rapports hommes-femmes, tantôt sur la question environnementale, tantôt pour les chrétiens de gauche sur la question chrétienne, tantôt sur la question libertaire, enfin bref. Or, à mes yeux, aux yeux de beaucoup d'observateurs, l'originalité, mais aussi la fragilité de cette rébellion, réside précisément dans cette articulation de dimensions qui jusque-là avait souvent été opposée dans l'histoire des luttes, voire absente dans l'histoire des luttes en Amérique centrale et en Amérique latine, mais surtout en Amérique centrale en particulier. On retrouve cette même articulation, ce même cocktail, dans les identités mobilisées, les indigènes, les zapatistes, quand ils parlent, quand ils se mobilisent, c'est parfois en tant que femmes. Souvent, c'est en tant qu'homme, c'est en tant que paysan, c'est en tant qu'indigène, maya, tzotzil, sont des identités donc sociales, classistes, culturelles, ethniques qui sont mises en avant à tour de rôle, nationales également, ils se définissent et se revendiquent souvent comme mexicains. Tous les événements solennels organisés par le zapatisme depuis 1994 se font devant un immense drapeau mexicain, donc on est chiapanec, on est maya, mais on est mexicain à part entière. On veut être reconnu comme citoyen à part entière, être égaux avec les autres, mais respecter notre différence. Et on retrouve aussi cette articulation de différents registres dans les formes d'organisation de la rébellion, des formes d'organisation en tension, hein. Les modes de mobilisation sont souvent démocratiques, horizontaux, participatifs, en réseau, symboliques, créatifs. Tout ça, on va le dire beaucoup à propos du mouvement zapatiste, mais les modes d'organisation verticalistes restent pour autant très prégnants, autoritaires, centralisateurs également, donc des modes d'organisation plus classiques. Même si le mouvement entend rompre, il n'arrête pas de le répéter avec le dogmatisme, avec le militarisme et avec l'avant-gardisme, on peut dire qu'on a affaire à un mouvement paradoxalement à la fois très ouvert et qui multiplie les gestes d'ouverture, mais également un mouvement qui sait se montrer très, très intransigeant. En cela, on l'a dit à raison, me semble-t-il, on a affaire à un mouvement, et ce n'est pas commun, un mouvement identitaire, révolutionnaire et démocrate, d'où son caractère séduisant, parce que cette articulation entre ces trois adjectifs qui vont rarement ensemble, effectivement assez rare à l'échelle du monde, fin des années 90, début des années 2000 et encore aujourd'hui. Un mouvement qui donc, a une volonté de. Qui mobilisé par une volonté d'autodétermination, sans sécession, sans séparation, mais aussi une volonté d'intégration mexicaine, sans assimilation indigène. Une deuxième ou troisième, je ne sais plus, question problématique, deuxième, controversée, je vous dis, elle refait régulièrement l'actualité. C'est une thèse qui est présente dès le 1er janvier 1934, et qui est souvent reprise depuis lors par les détracteurs du mouvement, dans la presse comme dans le monde politique mexicain. C'est la thèse de l'hétéronomie supposée de la rébellion, de la prétendue instrumentalisation, manipulation des indigènes par une impulsion, par un commandement externe. C'est une thèse qui suffit aux yeux de ceux qui la profèrent à décrédibiliser, à saper la crédibilité du mouvement. Certes, on l'a vu, je l'ai dit très rapidement, il n'y a pas eu de gestation en vase clos de ce mouvement, il n'y a pas de rébellion armée comme réponse mécanique à l'injustice, sans médiation extérieure. Effectivement, ces indigènes ont été l'objet d'influences multiples, et comme la caricature l'indique, Samuel Ruiz a eu un rôle prépondérant dans la gestation du mouvement, sous-commandant Marcos et ses amis dans sa définition, ou plutôt dans ce que Marcos appelle lui-même son indéfinition. Mais pour autant, y réduire à cette manipulation la signification du mouvement, réduire la signification de ce mouvement, qui est un mouvement d'affirmation, de contestation, de proposition, enlever toute légitimité à cette dynamique massive indigène d'émancipation, c'est à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'autres, évidemment, se fourvoyer par racisme, par intérêt politique ou par myopie sociologique, parce qu'il y a des sociologues qui continuent à défendre cette thèse de la manipulation des indigènes. Les indigènes, selon eux, n'auraient pas pu être, ne sont pas capables, donc ne pourraient pas être coupables de pareilles choses. Ils sont le résultat de la manipulation d'une extrême gauche urbaine, universitaire, qui a plongé dans le chapelet dans les années 80. Bref, colporter cette thèse-là se fait tout de même le plus souvent pour justifier de mauvaises réponses à de vraies demandes sociales de redistribution et de reconnaissance. Et c'est faire peu de cas, comme la caricature l'indique, de la capacité d'adaptation, de la capacité d'adoption, d'instrumentalisation par les indigènes eux-mêmes. Des influences, des apports dont ils ont été, dont ils sont encore l'objet ou plutôt le sujet. La question du rapport aux politiques de la rébellion zapatiste est une question centrale également et qui continue à susciter beaucoup de débats et parfois des conflits entre les gens qui soutiennent les zapatistes. C'est donc le rapport aux politiques, sa conception de l'État et les voies privilégiées du changement social. En gros, pour le dire trop rapidement, évidemment, il y a des bouquins entiers sur le sujet. En 20 ou 30 ans de zapatisme, on est passé, avec une série d'allers-retours qu'on pourrait évoquer, on est passé d'une tendance plutôt étatiste, classique, jacobine, marxiste-léniniste, verticaliste, une conception du changement par le haut. Il s'agissait bien d'aller renverser le gouvernement. Il s'agit bien de prendre le pouvoir pour changer le monde dans un premier temps. La photo qui est là, c'est les apatistes en 2001 devant le Palais national, devant le Congrès. En gros, on est passé donc de cette conception relativement classique à une conception plus autonomiste, plus libertaire, plus horizontale, de changement par le bas. Changer le monde sans prendre le pouvoir, c'est le titre d'un bouquin qui a eu beaucoup de succès au Mexique dans les années 2000. C'est la thèse du commander en obéissant. C'est un des slogans les plus prolifiques du zapatisme, mandar obedeciendo, commander en obéissant au plus près des communautés représentées par les gens qui les gouvernent. Bref, pour d'aucuns, cette tendance autonomiste, c'est l'essence même du zapatisme, cette radicalité démocratique, cette pratique de l'autonomie. Pour d'autres, dont je fais partie, c'est plus le résultat d'une évolution circonstancielle du zapatisme au fil des événements. Daniel Ben Saïd, le regretté Daniel Ben Saïd, lui-même d'ailleurs, allait jusqu'à dire à propos de cette célébration acritique du profil autonomiste de la rébellion zapatiste, il disait que c'était de faire de nécessité vertu. Et à mes yeux, il n'avait pas tort. Témoigne d'ailleurs une nouvelle fois, a témoigné il y a 2 ans maintenant, une nouvelle fois du caractère évolutif du rapport aux politiques des zapatistes. La candidature indigène de Marie Tchoui, qu'on voit là, son nom complet, c'est Maria de Jesús Patricio Martinez, candidature indigène proposée et promue par les zapatistes aux dernières élections présidentielles. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de pourquoi finalement cette candidature n'a pas abouti, mais s'ils étaient parvenus à réunir le million de signatures qu'ils devaient réunir, les zapatistes, en tous les cas, auraient présenté cette dame, qui n'est pas une indigène du Chiapas, mais qui est une indigène nahua de l'État de Jalisco, au nord-ouest de la capitale, militante bien connue au Mexique. Mais bref, voilà, donc cette candidature dont vous avez peut-être entendu parler en 2018 lors des dernières élections, l'élection finalement remportée par López Obrador. À cette occasion, donc, le Congrès national indigène, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était la seule réussite organisationnelle à l'échelle nationale que les zapatistes avaient à leur profit, ce Congrès national indigène a créé un conseil indigène de gouvernement, le CIG, dont Marie Tchoui a été déclarée porte-parole et candidate aux élections présidentielles. Un autre élément de cette question du rapport aux politiques du zapatisme, pour ne pas éviter cette question, c'est la confrontation ouverte qu'ils ont aujourd'hui avec le premier président de gauche depuis très longtemps que le Mexique a, depuis 2008, donc AMLO. Son acronyme là, que vous voyez sur l'affiche, c'est Andrés Manuel López Obrador. Il demande à l'EZLN, finissons-en des divisions, le peuple doit s'unir. Or, les zapatistes sont en opposition frontale avec le président de la quatrième transformation. La quatrième transformation, si vous avez suivi, hein, López Obrador, c'est là-dessus qu'il a construit sa campagne électorale et sa victoire. La quatrième transformation qu'il annonce, c'est celle qui suit. La première, c'est l'indépendance. La deuxième, c'est la réforme libérale de la fin du 19e siècle. La troisième, c'est la révolution mexicaine du début du 20e siècle. Et la quatrième, donc, c'est l'avènement au pouvoir de López Obrador, premier président de gauche ou de centre-gauche, selon d'où on le regarde, au Mexique depuis très longtemps. Donc, il y a vraiment une confrontation là entre un projet de López Obrador, donc modernisateur, aux accents socialistes, néo-développementalistes, de forts investissements de l'État dans des grands projets que les indigènes appellent des méga-projets. Et là où le gouvernement y voit des projets de modernisation, de développement du Mexique, les indigènes y voient un capitalisme de prédation, une tentative d'accumulation par dépossession, sans le consentement des communautés indigènes dans lesquelles se construisent ces méga-projets miniers, touristiques, énergétiques, etc., etc., routiers, agraires. Le méga-projet le plus en vue autour duquel se confrontent vraiment les zapatistes et López Obrador aujourd'hui, c'est ce projet de train Maya. C'est comme ça qu'ils l'ont baptisé, c'est comme ça que le gouvernement l'a baptisé, un grand réseau ferroviaire sur toute la péninsule du Yucatan, qui aura pour fonction notamment de relier les centres balnéaires touristiques de Cancun à un autre centre touristique du Chiapas, qui est Palenque, les ruines de Maya de Palenque. Et donc, une partie de ce réseau ferroviaire traverse des communautés indigènes zapatistes. Et donc, sur ce projet-là, comme sur beaucoup d'autres, les communautés indigènes, les membres du Congrès national indigène mexicain aujourd'hui se confrontent à ce gouvernement de gauche. J'en viens à la dernière question. J'espère que j'ai encore quelques minutes. C'est la question de la viabilité, la question concrète de l'autonomie aujourd'hui, enfin, ces 20 dernières années dans les territoires, dans les territoires zapatistes. Donc, pour rappel, c'est l'option, les zapatistes ont pris l'option de construire cette autonomie début des années 2000 suite à la non-application des accords de San Andrés, pas d'autonomie de droit, donc on va construire l'autonomie de fait, et suite également aux échecs qu'ils ont engrangés suite à leur tentative de créer une organisation politique à l'échelle nationale. Donc là, on va changer le monde, mais là où on est, là où on vit, là où on a une influence. Et donc, c'est depuis une petite vingtaine d'années maintenant, qu'ils travaillent à un développement, un renforcement de leur système d'autogouvernement, qui est perçu par beaucoup d'observateurs, beaucoup vraiment, et je cite surtout ici Jérôme Bachet, français, médiéviste, mais de ces dernières années, il a écrit beaucoup sur le zapatisme, parce qu'il vit là-bas la moitié de l'année depuis une bonne vingtaine d'années, qui est sans doute le francophone qui connaît le mieux le mouvement zapatiste. Jérôme Bachet donc présente régulièrement cette construction d'autonomie zapatiste comme l'une des expériences rebelles contemporaines les plus remarquables par son ampleur, sa persistance et sa radicalité. À ses yeux, cette forme d'autogouvernement populaire est en double sécession, en sécession complète par rapport aux institutions de l'État mexicain et en sécession quasi complète par rapport à la logique capitaliste dominante. En réalité, ce que l'on sait des pratiques anticapitalistes, entre guillemets, de l'autonomie zapatiste, c'est surtout ce que nous en disent les zapatistes eux-mêmes. La photo que vous avez là, c'est les quatre cuadernos, les quatre cahiers que les zapatistes nous ont donnés lors de la petite école en 2014, lors de leur 20e anniversaire. Cahiers qui sont des compilations de récits d'indigènes, hein, dont beaucoup sont encore analphabètes, mais donc pour ceux qui écrivent, ils ont donné leur avis là-dedans, compilation de récits qui sont des récits disparates, lacunaires, assez subjectifs. On va le voir, mais très variables d'un endroit à l'autre, parce que la zone d'influence du zapatisme est très vaste. Très autocritique également, les zapatistes là racontent leurs réussites, mais aussi leurs échecs, et parfois même contradictoires entre eux. Donc on a affaire à des textes assez peu approfondis, voire silencieux sur certains aspects. Qu'on voudrait mieux connaître, c'est-à-dire les questions économiques aujourd'hui, comment ça se passe dans ces zones d'influence zapatiste. On sait que l'autonomie, grâce à ce que nous en disent ces zapatistes, donc par la force des choses, parce qu'aller sur place, c'est difficile, on peut y passer, mais y vivre, c'est nettement plus compliqué. On est dans une région, encore une fois, qui est toujours dans une situation de guerre de basse intensité. Encore ces dernières semaines, il y a eu des affrontements entre communautés zapatistes et communautés non zapatistes. Soutenu par des groupes paramilitaires financés par l'État. Bref, le climat est très compliqué, ce qui rend difficile une connaissance approfondie de la façon dont l'autonomie se gère au quotidien. Mais donc, ce qu'on en sait, c'est qu'ils n'arrêtent pas de le répéter, les zapatistes, ce qu'ils vivent, c'est tout sauf un modèle, tout sauf un système. Les modalités sont très variables d'une zone à l'autre. On va voir ces zones rapidement. Ces modalités sont extrêmement peu formalisées, pour ne pas dire pas du tout, elles ne sont pas standardisées. Une seule certitude, c'est qu'il y a une existence de mécanismes, de procédés complexes et variables, encore une fois, d'une région à l'autre, de partage des fonctions politiques, administratives, on va le voir, de consultation quasi permanente. On est dans une dynamique de consultation permanente des assemblées dans les villages, des assemblées au niveau des municipalités, des assemblées au niveau des zones, en permanence, un va-et-vient incessant de ces différentes assemblées. et des mécanismes également de vigilance, d'autocontrôle. On sait également que les principales réalisations constitutives de l'autonomie, dont je vais dire un mot, hein, sont mises en œuvre de manière largement, ou le plus largement possible, en tous les cas démonétarisée, sans recourir au salaire. C'est le cas en tous les cas pour ceux, pour les apatistes, hommes et femmes qui assument des charges politiques, qui assument des charges dans le domaine de la justice, qui assument des charges dans le secteur de l'éducation et ou qui assument des charges dans le secteur de la santé. Il y a tous ces apatistes qui occupent des mandats, ce qu'ils appellent des charges, donc des services à la communauté. Eh bien, la communauté, enfin la communauté, c'est le mot qu'on emploie là-bas, mais c'est le village en réalité, le village zapatiste ou la population zapatiste au sein de ce village couvre leurs besoins pendant leur mandat. Et où travaillent eux-mêmes leurs parcelles pendant, à leur place pendant qu'ils exercent leurs fonctions dans les écoles ou dans l'administration zapatiste. On sait également que et là c'est une phrase de Bachet, que les tâches collectives constitutives du mode de vie autonome sont assurées grâce à différentes modalités d'échange, encore une fois sans recourir aux formes caractéristiques d'une société capitaliste. L'information la plus claire qu'on a, c'est sur l'architecture politico-administrative de ces zones d'autonomie. Là, on est d'une certaine façon surinformé par rapport aux autres aspects. Dans les cahiers que je vous ai montrés dans la dia précédente, la moitié des cahiers nous racontent comment se gère l'architecture politico-administrative. Donc l'autogouvernement, l'autonomie de fait, qui prévaut dans les zones d'influence, pour information de manière très concrète, ces zones d'influence du zapatisme. Vous avez vu la carte au départ, c'est un territoire très très fragmenté, qui a plus ou moins la taille de la Belgique, mais que les zapatistes ne contrôlent pas totalement, évidemment, ils contrôlent des fragments de ce territoire, mais ce territoire est organisé en trois niveaux, des centaines de villages, les communautés, comme ils les appellent, ce qu'ils appellent les bases d'appui, qui sont elles-mêmes organisées au sein de 27 municipalités rebelles autonomes zapatistes, donc des centaines de villages, 27 municipalités, et à l'échelon supérieur, les 5 conseils de bon gouvernement, les 5 caracoles où l'on administre l'ensemble. Et chacune de ces zones a plus ou moins la taille d'une province belge ou d'un département français. Et donc cette architecture, c'est une architecture civile, c'est l'architecture sociale du zapatisme, indépendante de l'EZLN, donc de l'armée, de l'outil politico-militaire, indépendante de l'EZLN comme tel. Mais, et là aussi ça varie selon les apatistes qui vous parlent, cette structure sociale, cette structure civile, reste tout de même sous la vigilance, sous l'orientation du plus haut commandement de l'EZLN, qui est le CCRI-CG, le Comité clandestin révolutionnaire indigène, la Commandancia générale de l'EZLN. Et dans ce comité, on retrouve des commandants indigènes, hommes et femmes, à parité. Et c'est pas là, par exemple, le sous-commandant Marcos. Le sous-commandant Marcos, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, mais je n'ai pas le temps de développer, lui est responsable militaire de l'EZLN et le porte-parole avec le sous-commandant Moïse. Mais eux ne font pas partie donc, de cette instance suprême du zapatisme, qui est le comité clandestin révolutionnaire indigène, où on ne trouve que des commandants et des commandantes indigènes, et qui, selon certains apatistes, donc, gardent un contrôle, un pouvoir d'influence, de vigilance, d'orientation sur l'ensemble de la structure sociale civile du zapatisme. Concrètement, cette administration civile du zapatisme au quotidien s'organise, et chaque mot est important, et il est répété au fil des textes zapatistes, au fil des discussions qu'on a avec eux, elle s'organise dans la délégation. Le mot est important, dans les délégations du pouvoir depuis la base, assemblée communautaire, assemblée municipale, conseil de bon gouvernement, et dans les allers-retours incessants de ces trois niveaux, pour parvenir, pour toutes les décisions à prendre, au consensus. Le consensus est requis dans ces différentes assemblées. Et quand, si par malheur, une décision n'est pas approuvée par l'ensemble de l'assemblée, malgré le nombre d'assemblées répétées pour y parvenir, on aboutit sur des exclusions. Les apatistes qui ne partagent pas l'avis de l'assemblée sont exclus ou quittent le village ou quittent la rébellion aux apatistes comme telle. C'est minoritaire, mais c'est pour vous expliquer à quel point cette idée du consensus imposé fonctionne. Donc concrètement, cette administration s'organise dans la délégation du pouvoir depuis la base, dans la rotation incessante de tous les mandats, de toutes les charges dont je vous parlais tout à l'heure, des mandats qui ne sont non renouvelables, on les occupe une fois, une seule fois, et dans la révocabilité immédiate aussi de tous ces mandats, de toutes ces charges, qu'à tour de rôle, les délégués indigènes, hommes et femmes, à parité, encore une fois, ils y tiennent énormément et c'est très difficile, ils le reconnaissent, mais ils le font, que les délégués indigènes donc acceptent d'assumer bénévolement, ce mot-là également très important, parce que le Zapatisme s'oppose à toute forme de professionnalisation politique. Il vise ce que Bachet appelle lui-même la déspécialisation des tâches politiques. Bref, donc, ces délégués indigènes acceptent d'assumer bénévolement au sein des 5 conseils de bon gouvernement. Et là, la rotation, c'est quelques semaines, quelques mois tout au plus que les conseils sont renouvelés. Au niveau des municipalités, par contre, là, les mandats sont beaucoup plus longs. Ils sont entre 2 et 3 ans selon les municipalités. Donc, dans ces endroits donc, où l'on gère autant que faire se peut l'autonomie éducative, l'autonomie sanitaire, l'autonomie juridique, l'autonomie productive, l'autonomie commerciale des communautés. Bref, ces formes d'autogouvernement, c'est vraiment un exercice de radicalité démocratique qui se veut pleinement démocratique dans une perspective antisystémique, anticapitaliste. Il s'agit d'inverser le rapport entre gouvernant et gouverné, comme le slogan Mandar obedeciendo le dit bien, commander en obéissant. Et les zapatistes y ajoutent le refus de tout contact avec l'État comme condition à faire partie de la rébellion zapatiste. Ce n'était pas le cas au début, mais ça a été le cas, je ne sais plus à partir de quelle année, fin des années 90, je pense. C'est un critère d'exclusion. Tout zapatiste est tenu de refuser toute forme de contact avec l'État. Donc, toute initiative de l'État pour construire ou pour telle ou telle allocation, l'accepter, c'est sortir du zapatisme. Et derrière ce refus de tout contact avec l'État, aux yeux de Bachet, il y a un refus de tout rapport de subordination, de séparation, de dissociation. Ils réduisent au maximum toutes les formes de médiation, de représentation, et contre toute forme d'imposition, de confiscation du pouvoir, d'abandon de souveraineté dans des structures en surplomb, synonyme pour les zapatistes d'aliénation. Il y a 7 principes de bon gouvernement qui sont affichés un peu partout dans les communautés zapatistes qui structurent un peu ce que j'essaye de vous dire là. Le premier, c'est le mandar obedeciendo. Donc, ce rapport inversé entre gouvernant et gouverné, cette dissociation minimale qui est visée entre dirigeant et dirigé, cette proximité, mandar obedeciendo, donc dont découlent les 6 autres principes, dont les plus connus ou les plus faciles à vous livrer aujourd'hui ici, en tous les cas, c'est servir et non se servir, proposer et non imposer, convaincre et non vaincre, etc., etc. La géographie rebelle a connu quelques modifications. C'est une nouvelle surprise que le zapatisme a décrété, a créé en août de l'année passée, en août 2019. Tout d'un coup, là non plus, on n'avait pas vu venir. Le zapatisme a annoncé une reconfiguration de la géographie rebelle. En clair, à la fois un agrandissement de ses zones d'influence et une réorganisation du nombre des municipalités et des caracoles. Pour l'anecdote, ils sont passés de 27 municipalités à 31. Et par contre, ils sont passés de 5 caracoles, donc les conseils de bon gouvernement au niveau zone, des zones, des grandes zones, ils sont passés de 5 à 12, donc en redécoupant certains territoires, mais en ajoutant d'autres. Là, sur la carte que vous voyez, en rouge, c'est les zones où ils avaient déjà une influence. En jaune ou en jaune assuré, c'est les zones qu'ils ajoutent officiellement à ce qu'ils appellent la géographie rebelle, c'est-à-dire à leur zone d'influence. Pour autant, on n'a toujours pas d'informations précises sur leur. La question est politiquement épineuse, évidemment, sur la question du poids démographique du mouvement zapatiste. Ils n'ont jamais répondu à la question quand on leur posait la question, évidemment, les estimations sont très, très, très périlleuses à faire. La réponse la plus connue qui a été donnée par le zapatisme à cette question, combien êtes-vous, c'est Somos un chingo. Donc on est un paquet, on est beaucoup. Bref, on estime généralement qu'on est maximum autour de 100 000 personnes, 100 000 indigènes du Chiapas dans ces zones d'influence qui feraient partie de ce mouvement, donc qui reste un mouvement massif, mais minoritaire. C'est 10% de la population indigène de la région. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'aurais dû le dire beaucoup plus tôt parce que c'est un aspect qu'on n'a pas à l'esprit quand on en parle trop rapidement. Pratiquement aucun village du Chiapas n'est à 100% zapatiste. C'est en ça que je vous ai parlé de régions très très fragmentées, jusqu'en dans des familles où il y a des zapatistes et des non-zapatistes. Dans les villages, la plupart des villages, on trouve des zapatistes et des non-zapatistes. Une des municipalités les plus connues, justement, c'est la municipalité de San Andrés, où ont été signés les accords en 96. Et bien, la municipalité de San Andrés, l'édifice, il est partagé à la fois par la municipalité autonome rebelle zapatiste et par la municipalité officielle indigène de l'État mexicain. C'est un aspect qu'on n'a pas forcément à l'esprit si on ne le dit pas, et qui rend évidemment les situations particulièrement compliquées et tendu au quotidien. Quelques mots sur les réalisations mises en avant par les zapatistes quand ils nous parlent de leur régime d'autonomie. Ils insistent beaucoup d'abord sur ces questions de santé, d'éducation et de justice. L'éducation, c'est un réseau, selon les zapatistes, en 2004, les chiffres datent de 2014, de 500 écoles primaires dans tout le territoire que vous avez vu, où travaillent 1300 promoteurs d'éducation, surtout des hommes, là, pour le coup, et où vont étudier 16 000 élèves. Les chiffres, donc, sont de 2014. Ce sont des lieux d'apprentissage, de réappropriation, d'émancipation. Les enseignants, je vous l'ai dit, sont non rémunérés. Ils travaillent comme enseignants, ils acceptent cette charge en échange du soutien par la communauté de ce dont ils ont besoin pour vivre. Le contenu des cours est bilingue, en langue maternelle, mais aussi en espagnol. On y parle évidemment beaucoup de l'histoire et de la culture des peuples indigènes du Chiapas. En revanche, il y a beaucoup d'écoles primaires, il y a très très peu d'écoles secondaires, et celles qui existent servent surtout à former de nouveaux promoteurs pour enseigner dans les écoles primaires. À ce réseau s'ajoutent 10 radios communautaires, qu'ils intègrent également le régime éducatif et un centre de création de vidéos. En matière de santé, pareil, les zapatistes sont très fiers de répéter que la mortalité infantile a chuté dans les régions, dans les communautés zapatistes, que la dénutrition a également chuté et que l'alcoolisme est également en régression. Et ça, c'est le plus visible à l'œil nu, évidemment. Il y a effectivement beaucoup d'alcoolisme dans les régions indigènes, mais dans les communautés zapatistes, tout simplement, l'alcool est interdit. C'est affiché à l'entrée de toutes les communautés. L'alcool, la drogue et aussi la nudité, d'ailleurs, sont interdits dans les communautés zapatistes. Et donc, il a été réduit à néant, d'où une forte chute, notamment, des violences conjugales, qui est un des maux endémiques des communautés indigènes du Chiapas. Donc, dans le secteur de la santé, il y a une clinique par zone, par caracol, donc. Dans les municipalités, il y en a une trentaine de municipalités, mais il y a 11 microcliniques, et il y a des maisons de santé, une quarantaine, dans les villages eux-mêmes, avec des agents de santé. Je passe des éléments parce que je prends trop de temps, je crois, mais 322 promoteurs de santé fonctionnaient en 2014. Promoteurs de santé formés par des médecins solidaires, donc des apathisants qui passent et qui forment par des extérieurs, donc, mais aussi par l'auto-formation. Les apathistes parlent beaucoup de la revalorisation des médecines naturelles, des médecines traditionnelles qu'ils articulent avec les connaissances plus modernes. L'accès à la santé, d'après ce qu'ils nous en disent, est tantôt gratuit dans certains villages, dans certaines régions, tantôt vraiment à des prix modiques, c'est variable selon les zones. Une des preuves du succès de cette structure, d'après les zapatistes, c'est que des indigènes non-zapatistes des mêmes villages y ont parfois recours. En matière de justice, Les apatistes insistent beaucoup sur l'objectif de résolution des conflits. C'est la responsabilité des autorités municipales, donc c'est au niveau des municipalités que ça se passe. Et ça peut remonter au niveau des caracoles s'il y a des problèmes non résolus. La priorité, c'est recherche d'un accord entre les parties en conflit. Il s'agit de réparer plutôt que de sanctionner par des travaux d'intérêt général ou des travaux pour les victimes, où on promeut la réconciliation plutôt que la punition. Et là aussi, une preuve de l'efficacité de ces structures juridiques mises en route par les apatistes, c'est l'attrait sur les communautés non apatistes qui ont, d'après les apatistes, recours régulièrement. La justice officielle étant trop chère, inaccessible, trop éloignée, en espagnol, pas en langue indigène, trop expéditive ou trop lente, trop corrompue, ce qui n'est pas le cas du système de justice apatiste. Sur la question des femmes, j'en ai déjà touché un mot, mais en redire un mot parce que c'est vraiment central dans la mobilisation apatiste, l'égalité de genre. Et ils savent que c'est difficile dans leur. Ils n'arrêtent pas de reconnaître la difficulté à atteindre leurs objectifs de parité, d'égalité de traitement. C'est une obsession, mais oui, c'est presque une obsession, mais c'est une priorité qui date d'avant le 1er janvier 1994. Pour preuve, la loi révolutionnaire des femmes qui date de 1993, qui est un texte vraiment qui donne des pouvoirs aux femmes égaux à ceux des hommes. Leur objectif est de faire évoluer les traditions communautaires indigènes dont ils savent bien qu'elles sont injustes et inégales sur ces questions-là. Chaque fois qu'ils peuvent mettre en avant une femme au niveau de la représentation du zapatisme vis-à-vis de l'extérieur, ils le font et ils l'ont fait. Une des grandes figures du zapatisme au début, c'était la commandante Ramona. C'est la commandante Esther qui a pris la parole devant le Congrès en 2001. Et c'est une candidate femme indigène qui a été présentée aux élections en 2018. Dire un mot tout de même de la façon dont les apatistes tentent de gérer l'économie de leur territoire ou les questions de production, de consommation, de commercialisation. Leur principal moyen de production, ils le répètent sans cesse, c'est la terre, évidemment. C'est la base matérielle qui rend possible, aux yeux des apatistes, la construction de l'autonomie. La terre est centrale sur tous les plans. Mais avec cette spécificité qui va vous rappeler ce que je vous ai dit au début, c'est que les apatistes des basses terres, des terres chaudes, donc au sud-est, pardon, de San Cristóbal Las Casas, eux ont accès à pas mal de terres. Ce sont les terres qu'ils ont récupérées au moment du soulèvement en 94 et puis dans les mois qui ont suivi, des milliers d'hectares qu'ils ont récupérés, qu'ils ont toujours sur leur pouvoir. Et là, ils produisent pas mal de café, notamment. En revanche, les indigènes apatistes, et ils sont très nombreux parce que la région est très densément peuplée, qui vivent au nord de San Cristobal, sur les hauts plateaux. C'est une région très accidentée, donc entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Là, la terre manque très cruellement. Elle est de plus en plus fragmentée d'une génération à l'autre. Hein. On divise en familles des petites parcelles qui sont de plus en plus ridicules et qui ne permettent même pas d'assurer l'autosubsistance. Mais donc les activités, le travail de la terre, c'est d'abord pour l'autosubsistance, le maïs, les frirols, les haricots, donc les légumes, surtout en altitude, le miel également, il y a pas mal d'apiculture, les bananes dans les régions les plus chaudes et la canne à sucre également, petit élevage mais très, très limité. Et au-delà de l'autosubsistance, quand il y a des surplus, vendent des surplus sur le marché interne dans les communautés apatistes et parfois hors des communautés apatistes. À cette autosubsistance qui est donc dominante, s'ajoute, je vous l'ai dit, la culture des parcelles, le plus souvent familiales, de café, et café qui est commercialisé par des coopératives apatistes, j'y ajoute l'artisanat produit par les femmes et le miel. Et ces productions partent vers l'extérieur à travers majoritairement pour le moment les filières solidaires internationales qui se sont créées dans la foulée de l'intérêt du retentissement et de l'écho international qu'a eu le zapatisme en 1994. Donc la dépendance vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis du marché extérieur, les coyotes, les intermédiaires habituels, est remplacée aujourd'hui par une dépendance vis-à-vis d'un réseau solidaire évanescent, il faut bien le dire. Et donc les recettes de cette exportation de leur production de café, d'artisanat et de miel permettent aux familles l'achat de biens qui ne sont pas produits dans les communautés, de biens essentiels et non essentiels, donc l'huile, le sucre. Mais dans certaines communautés indigènes, on voit aussi pas mal de Coca-Cola acheté à l'extérieur. Dans d'autres, il est interdit. Bref, donc coexistence selon des proportions très diverses d'une communauté à l'autre, d'une municipalité à l'autre, de parcelles individuelles, familiales et de terres collectives. Les zapatistes mettent fort ça en avant, insistent beaucoup sur les travaux, les trabajos colectivos, les travaux collectifs, les terres collectives, les projets productifs, leurs coopératives de café, de tissage, de petit élevage. Il y a aussi quelques coopératives de boulangerie, de cordonnerie, de ferronnerie, de menuiserie, apiculture et enfin transport, un système de transport en camionnette entre les communautés. On y promeut sans cesse l'agroécologie, évidemment, j'en ai pas suffisamment parlé. Donc pas d'intrants chimiques, qui est d'une certaine façon également faire de nécessité vertu parce que ça coûte cher les intrants chimiques, mais agroécologie sans intrants chimiques, priorité aux semences natives, diversité des parcelles. On tente d'y appliquer, d'y respecter les principes ou les préceptes d'une agroécologie alternative plus riche que les monocultures qui prévalaient jusque-là sur les terres qu'ils ont récupérées. Donc refus de toute aide et de toute intervention de l'État, je le répète, mais il y a une loi zapatiste qui dit, évidemment on ne sait pas mesurer dans quelle mesure elle est appliquée ou pas, mais je vous la livre telle qu'elle existe. Les zapatistes prennent 10% d'impôts sur les entreprises de travaux publics qui viennent de réaliser des travaux sur les territoires zapatistes. En clair, quand l'État décide de construire une route qui traverse une communauté zapatiste, les zapatistes, selon leur propre loi, sont en droit, en devoir de demander 10% des sommes investies pour les communautés. Donc ça, ils nous le disent également régulièrement, c'est dans les textes zapatistes. On ne sait pas comment c'est appliqué, évidemment, et on ne sait pas si ça a déjà fonctionné. Bref, base matérielle extrêmement fragile, extrêmement précaire de l'autonomie zapatiste. Je termine. Hein. Vous avez compris, l'autonomie, ces autogouvernements sont devenus pour les zapatistes à la fois la méthode et la finalité de leur lutte. C'est le processus même. Ils ne sont pas du tout dans un fétichisme de l'instituer, genre on a fait ça, voilà comment ça doit fonctionner. Non, ils répètent sans cesse, caminar preguntando, donc marcher en posant des questions. Le chemin se fait en marchant. On est dans un processus. La construction d'autonomie, c'est un laboratoire, un terrain d'expérimentation concrète, sans fin, éternel, enfin, sans fin, donc sans pratique par le bas de leur projet de transformation sociale, d'émancipation politique et d'émancipation culturelle. Reste peut-être trois questions pour ne prendre que celle-là, mais est-ce qu'on peut qualifier ces initiatives d'anticapitalistes, de post-capitalistes, de socialistes? Est-ce qu'on peut les qualifier de non-étatiques, d'anti-étatiques, comme Bachet le fait? Et quelle est leur viabilité? Donc, je vous l'ai dit, donc les manières de vivre, les formes de vie autodéterminées des zapatistes, c'est d'abord les pratiques de l'assemblée communautaire, émancipées autant que faire se peut des traditions patriarcales. C'est la priorité non exclusive à l'entraide, à la réciprocité, aux travaux collectifs, priorité donc, hein, aux différentes formes de possession collective de la terre, à la défense, à la non-marchandisation des territoires et des biens communs, donc souveraineté sur leurs propres ressources, priorité aux échanges démonétarisés, priorité au qualitatif dans leurs discours et leurs pratiques, ça revient tout le temps, donc la vida digna, la vie digne, l'éthique du buen vivir, priorité à ces valeurs, à ces dimensions sur celle du quantitatif, sur celle du compétitif, sur celle du productivisme. Est-ce qu'en cela, ça en fait des initiatives anticapitalistes, post-capitalistes, socialistes, j'en sais rien. Est-ce que la relocalisation de l'organisation politique, est-ce que ces modalités les moins dissociatives possibles de délégation du pouvoir, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, promues par l'autonomie, est-ce que ça s'apparente à une forme non étatique du politique, à une politique sans État ou une politique contre l'État? Encore une fois, Jérôme Bachet, lui, en est convaincu, mais pas Frédéric Lordon, par exemple. Frédéric Lordon a eu un débat sur cette question avec Bachet à propos du rapport à l'état des apatistes. Troisième et dernière question, la viabilité, qu'en est-il de la viabilité sociale, politique, économique de ces expériences d'autogouvernement? Vous allez me dire, et moi, en tous les cas, moi, je vais vous le dire, certes, ils ont fait la preuve de leur viabilité, de leur durabilité. Personne n'aurait, peu de monde, en tous les cas, du côté des observateurs étrangers, aurait parié sur une durabilité telle. 27 ans, ça fait 27 ans que ça dure, ça fait 27 ans que ça fonctionne. Vivent-ils mieux ou moins bien socialement, matériellement aujourd'hui qu'en 1994? C'est la question à ne pas poser là-bas. En tous les cas, quand je la pose, il y a des réponses contradictoires au sein même des apatistes ou des apatisants. Ils ne sont pas tous sûrs que leur situation matérielle se soit améliorée, mais ce sur quoi ils sont sûrs, ce sur quoi il y a un consensus, c'est qu'ils ont gagné en dignité, c'est ce qu'ils ont gagné en vida felice, donc en vie heureuse, les mots qu'ils emploient le plus souvent. Bref, vous le devinez, vous l'avez compris, un clivage parmi les observateurs, parmi les apathisants, les sympathisants, entre fascination pour cette actualisation à ciel ouvert des modes d'organisation communautaire indigène, pour toutes ces réalisations réelles, concrètes, que les apatistes ont engrangées ces dernières années dans le régime d'autonomie. Mais il y a aussi, de l'autre côté, un scepticisme à l'égard de la viabilité, de la précarité même, surtout économique, de ce régime d'autonomie, dans un contexte, je n'ai pas dit assez parce que je n'ai pas eu le temps, mais dans un contexte toujours très adverse sur tous les plans, militairement, économiquement, politiquement et même socialement. Le tissu indigène tchapanèque est déchiré. Et le contexte politique militaire reste très difficile, le harcèlement, les exacerbations, les divisions. Il y a une menace permanente et très réelle ces derniers jours, même si à d'autres moments, quand les apatistes ne font pas parler d'eux, ils bénéficient d'une relative indifférence de la part des autorités, quand ils apparaissent moins menaçants ou ou oubliés. Mais aujourd'hui qu'ils ont repris l'initiative et qu'ils annoncent des visites à l'extérieur, ils refont parler d'eux et de nouveau, en réaction, en réponse, il y a des conflits, des escarmouches, des morts dans les communautés indigènes apatistes aujourd'hui. Bref, la rébellion apatiste, et je termine vraiment là-dessus, souffre toujours aujourd'hui, à mes yeux, d'une forte vulnérabilité sociale, d'une forte vulnérabilité militaire, économique, et d'un isolement politique aussi relatif, l'isolement bien évidemment, mais au sein des gauches mexicaines, le ZLN, Marcos a réussi à se fâcher en 20 ans avec pas mal de gens. Isolement donc et vulnérabilité qui rendent d'autant plus étonnante sa persévérance et sa durabilité actuelle. Voilà, j'ai été trop long, je pense. Est-ce que vous êtes toujours là?
Oui, on est toujours là. Merci Bernard. J'ai pas réussi à te signaler le temps en cours de route, mais c'était très riche en tout cas. Alors, il y a déjà quelques questions dans la conversation et pour les participants, n'hésitez pas à en poser d'autres. Et peut-être dire aussi que j'ai pas tout à l'heure, j'ai pas précisé d'où tu parlais, Bernard. Est-ce que tu peux juste rappeler si tu es dans quel centre de recherche tu es et tout ça, comme ça.
Oui, pardon, je ne me suis pas présenté.
C'est moi, j'ai oublié, pardon.
Pas du tout zapatiste, enfin, je ne suis pas du tout chapanèque, mexicain ni indigène. Je suis ardennais, ce qui est pas mal non plus. Hein. Si je suis ardennais belge, je travaille au centre, au CETRI, le centre tricontinental à Louvain-la-Neuve, qui est un petit centre d'études des rapports nord-sud, des mouvements sociaux dans les pays du sud et des grands enjeux de la mondialisation. Mais j'ai eu la chance de suivre, entre guillemets, mais de loin et de près à certains moments, le mouvement zapatiste depuis longtemps, depuis très longtemps. J'ai eu la chance d'aller là-bas pour mon boulot précédent dès le début des années 90, quand les commandants indigènes n'avaient pas encore leur cagoule, quand ils ne s'appelaient pas encore commandants d'ailleurs. Et donc, ce sont ces gens-là que j'ai reconnus après 1994 sous leur cagoule. Bref, j'ai eu la chance de connaître ces gens quand ils étaient à la tête d'organisation, mais qui ne s'appelaient pas encore zapatistes. Oui, c'est ça. Et depuis lors, j'y suis retourné dans les années 90. En tous les cas, j'y étais tous les ans, plusieurs fois. Et ces 20 dernières années, j'y vais moins régulièrement, mais je continue à suivre d'assez près ce qui s'y passe. Bref, donc beaucoup de chance de connaître depuis longtemps ce qui se joue là-bas, ce qui se les dynamiques à l'œuvre dans le Chiapas.
Alors, j'ai partagé une première question. Il y avait une question qui concernait plus précisément le soutien. Est-ce qu'il y a un soutien international pour l'éducation et la santé? Je pense que tu as en partie répondu, mais peut-être que préciser un petit peu plus.
Oui, il continue d'y avoir un soutien, évidemment, qui prend plusieururs formes, mais j'ai dit rapidement, j'ai employé le mot évanescent, parce que forcément, ça fait 27 ans maintenant qui se sont passés depuis le début du soulèvement, et l'intérêt international n'est plus aussi fort, ou en tous les cas connaît des hauts et des bas. Aujourd'hui, il y a de nouveau, les zapatistes, en annonçant leur visite sur les différents continents, ont relancé d'une certaine façon la dynamique. Et donc l'intérêt pour le zapatisme réapparaît ainsi à intervalles irréguliers. Et pareil pour la solidarité. Donc la solidarité, avant le zapatisme, déjà, il y a une série d'ONG, dans les organisations non gouvernementales belges, françaises notamment, qui soutiennent financièrement et politiquement également, mais surtout financièrement, des initiatives de développement, des coopératives. En matière d'éducation, en matière de santé, en matière agricole également, c'était notre cas, nous, au début des années 90, dans le Chiapas, vraiment dans ces régions-là que je viens de vous montrer. Et à ces ONG-là, après le 1er janvier 1904, se sont ajoutés des comités de solidarité qui ont aussi réuni des fonds ou différentes formes d'aide qu'ils ont apportées aux zapatistes. Et donc tout ça est très riche, tout ça est très positif pour en parler trop rapidement, mais difficile, parce qu'inévitablement très inégal, insuffisant de toute façon, toujours insuffisant, mais ça a créé de fait un nouveau type de dépendance de ce régime d'autonomie zapatiste à l'égard d'intervenants extérieurs, à l'égard d'organisation solidaire internationale. Ça n'invalide pas la démarche, c'est pas un mal en soi, mais c'est une dépendance forcément fragile qui connaît des hauts et des bas. Et donc oui, je ne sais pas si j'ai répondu, mais oui, en matière de santé, en matière d'éducation et en matière agricole également, il y a toujours des accords de coopération ou des aides qui sont apportées aux zapatistes. Je pense à une anecdote pour vous dire à quel point, je ne sais pas si, oui, elle a du sens quand même. Donc au moment des petites écoles zapatistes, donc en 2014, ils ont invité des gens du monde entier à venir. Moi, j'y suis allé avec beaucoup d'autres, évidemment. Et toujours ce souci chez les zapatistes de la parité, de l'égalité, de la redistribution, parce que depuis qu'ils existent, ils ont vu comment ça se passait, évidemment. Les communautés zapatistes les plus visitées sont celles qui sont les plus proches de San Cristóbal de las Casas, qui est le centre touristique où on a notre pied-à-terre, disons. Et donc, pour que les zapatistes plus éloignés des régions plus courues par les zapatisants ne pâtissent pas de leur éloignement, ils ont décidé depuis le départ le principe du pot commun, quoi. Donc, tout ce qui est reçu par les zapatistes est automatiquement redistribué à part égale entre toutes les communautés zapatistes pour que les gens qui voient plus de visiteurs que d'autres ne bénéficient pas plus de l'aide étrangère que d'autres. Et la petite anecdote que j'avais à l'esprit, c'est parce que j'ai mis une photo là dans le PowerPoint que vous venez de voir, où on voit un jeune tchélé, comme on dit là-bas, un jeune blanc qui joue, un blond qui joue aux échecs avec des jeunes zapatistes. Et ce petit jeu d'échecs, c'est un petit jeu d'échecs à la con qui coûtait 1 peso ou 2 pesos sur le marché de San Cristobal. Et après la partie d'échecs, le blond en question, qui s'appelle Tom, il a dit ben, je vais vous laisser le petit jeu d'échecs. Je vous dis, c'était 3 pesos. Enfin. Et donc, ce don a créé un problème en lui également, qu'on nous a bien averti au départ de de n'accorder aucune faveur à l'une ou l'autre personne en priorité, mais de passer par le pot commun. Et donc, je me suis mal expliqué, mais donc ce petit jeu d'échecs a été repris par les autorités zapatistes pour être mis dans le pot commun, pour qu'il ne bénéficie pas aux trois gars avec lesquels Tom avait joué aux échecs. Bref, un petit truc, là, donc on se demande vraiment bien comment il va être partagé entre les différentes communautés. Mais bon, ça c'est l'anecdote qui n'a pas beaucoup de sens, mais c'est l'application d'un principe en tous les cas égalitaire que les zapatistes ont décidé pour organiser ces afflux variables de solidarité étrangère avec ceux qui vivent.
Alors après, il y avait une question d'Agathe. Tu la poserais, Agathe ?
Oui. Du coup, je voulais savoir comment interpréter politiquement, tant au niveau national, du coup au Mexique et international, sur la venue des zapatistes en Europe.
Comment l'interpréter politiquement ? Vous me prenez un peu à court, mais... Pour les avoir suivis depuis plus de 25 ans, ben, comme un nouveau coup d'éclat. Donc, en principe, on ne doit pas s'habituer aux coups d'éclat, mais comme ils ont multiplié les coups d'éclat au moment où on les attend le moins, eh bien, c'est comme ça qu'on l'interprète, comme un nouveau coup d'éclat des zapatistes pour refaire parler d'eux, pour relancer la dynamique. On a dit de ce mouvement qu'il était rompu à l'exercice de rompre les encerclements. Donc, combien de fois ils sont sortis du Chiapas en petites délégations, des groupes de femmes. Une fois, fin des années 90, c'était 1111 délégués zapatistes. Je ne sais plus trop pourquoi c'était 1111, mais le chiffre était symbolique également. Ils avaient parcouru le Mexique. Des zapatistes sont d'ailleurs déjà venus en Europe. Mais là, cette nouvelle initiative est relancée à un moment très particulier, évidemment. C'est comme ça qu'on le justifie. On se dit que la situation est plus pénible encore qu'elle ne l'a jamais été. Parce que je vous l'ai dit trop vite également, mais la rébellion zapatiste aujourd'hui s'affronte à un pouvoir qui, a priori, devait lui être plus favorable que les précédents. C'était en tous les cas le souhait d'une partie de la gauche mexicaine et de López Obrador lui-même dans ses discours, en tous les cas. La réalité, c'est qu'il y a une réelle confrontation entre les deux entités, entre ce pouvoir mexicain et les communautés indigènes. Et donc, pour sortir une nouvelle fois de cette situation particulièrement difficile dans laquelle ils sont, ils ont imaginé cette nouvelle initiative qui a marqué évidemment le moment de son annonce, parce que j'ai oublié son appellation exacte, mais l'idée donc de se répandre sur les 5 continents, de donner corps à cette idée de l'intergalactique auquel le sous-commandant Marcos faisait déjà allusion dans les années 90. Et avec pour objectif, les mots sont souvent les mêmes, c'est ceux qui ont fondé la philosophie de la Sexta. La Sexta, c'est la 6e déclaration zapatiste, qui est celle qui invite les pôles de résistance anticapitaliste de par le monde à s'articuler. Et donc, l'idée qu'il y a derrière cette nouvelle initiative zapatiste, c'est de se mettre en contact avec leurs alter-ego, avec ces groupes, ces associations, ces communautés qui, de par le monde, tentent des initiatives comparables à la leur. Et donc, ils le redisent dans toutes les langues. Ce n'est évidemment pas du tout pour donner des leçons, ce n'est évidemment pas pour venir imposer le modèle zapatiste, c'est pour venir... dialoguer, s'articuler, échanger avec d'autres groupes en résistance face aux mêmes logiques capitalistes, prédatrices à l'œuvre dans le monde. Voilà comment il le justifie. Ma réponse n'est pas complète, hein, mais il y a des choses qui m'échappent peut-être pour l'instant. Des éléments conjoncturels qui expliqueraient plus cette initiative qu'une précédente, mais là... En réfléchissant tout haut, je n'en trouve pas davantage. Le 1er janvier, vous l'avez peut-être vu, ils ont fait circuler un communiqué. Et c'était la première, là aussi, c'était une première. Ils adorent les premières. Ce qu'il y avait d'original dans cette initiative, dans ce communiqué-ci, c'est qu'ils l'ont fait préalablement signer par une série d'organisations mexicaines, européennes, africaines, enfin du monde entier. Et donc c'est un communiqué zapatiste, comme ils ont l'habitude d'en publier énormément, mais celui-là a la spécificité d'avoir été consigné par des centaines, voire des milliers de personnes et de groupes avant d'avoir été diffusé. C'est la Déclaration pour la vie. On le trouve partout sur Internet, mais il est notamment sur le site du CETRI, cetri.be, et qui justifie, mais je n'ai pas les mots là pour le moment, je ne l'ai pas sous les yeux, mais qui justifie, qui explique cette initiative, cette nouvelle initiative intercontinentale que les apatistes ont lancée ces derniers mois, mais qu'il va falloir concrétiser maintenant. Ce n'est pas simple, évidemment, parce qu'au moment où ils l'ont lancé, oui, au moment où ils l'ont lancé, il y avait déjà la pandémie, mais on ne savait sans doute pas qu'elle allait s'étendre aussi durablement dans le temps.
Alors, on a deux questions de Didier. Donc, on t'écoute, Didier, si tu as un micro.
Oui. Donc, en fait, j'aurais voulu savoir un petit peu par rapport à la question des exclusions, qu'il n'y a pas de consensus qui est possible. Comment ça se passe et quelle est la position des apatistes par rapport à ce sujet, quoi. Et est-ce qu'on a une estimation du nombre de personnes que ça peut représenter au niveau des exclusions? Et ma deuxième question, c'est par rapport au rôle du CCRI, je crois, où il y a les sous-commandants et sous-commandantes. Tu disais que ces personnes-là étaient déjà dans des groupes politiques avant. Et est-ce que tu pourrais en dire plus? Quelle tendance politique? Si c'est plus marxiste, libertaire, quoi. Voilà. Et si ces personnes-là sont élues dans les CCRI?
Pardon, la dernière question, je n'ai pas compris.
Si ces personnes-là sont élues dans les CCRI?
Sont élues?
Oui.
Ah oui. Et donc, sur la c'est une question très intéressante, évidemment, je n'ai pas réponse à tout, mais sur les questions de l'exclusion, oui, les apatistes ne le cachent pas, puisque si je le sais, c'est parce qu'eux l'ont raconté. Parce que c'est difficile de moi, je n'ai pas mené d'études de longue durée dans les communautés indigènes du Chiapas. Certains l'ont fait, mais il y en a vraiment très très peu, beaucoup moins qu'on ne le croit, hélas. Mais donc les apatistes en parlent, oui. Ce que je vous ai dit là sur ce phénomène d'exclusion, eux-mêmes en parlent dans ces quadernos, dans ces cahiers où ils expliquent comment ça se passe avec cette procédure de consensus qu'ils valorisent positivement. Hein, il faut atteindre le consensus. Tant qu'on n'a pas le consensus de l'ensemble, tant qu'on n'a pas l'accord, la participation de l'ensemble de la communauté, on n'avance pas. Et ils valorisent vraiment positivement cette dimension hautement démocratique à leurs yeux de leur prise de décision. Et quand il arrive, mais je ne sais pas si c'est fréquent ou pas, donc des estimations de chiffres, on n'en a évidemment pas, quand il arrive que dans certaines communautés, des personnes ou des groupes de personnes ne parviennent pas à rejoindre ce consensus, ça débouche, comme eux le disent eux-mêmes, sur des exclusions. D'ailleurs, dans le bouquin dont la couverture apparaissait au début et en fin de mon PowerPoint, qui est accessible sur le site du CETRI in extenso, donc il ne faut même pas l'acheter. Là, c'est le dernier bouquin qu'on a fait sur le zapatisme en 2015 ou 2016, je crois. C'est le CETRI qui l'a coordonné, mais c'est une dizaine de textes d'auteurs mexicains qui connaissent le sujet bien mieux que moi encore. Et il y a un papier là-dessus. Il y a un papier sur le... pas uniquement sur les exclusions, mais sur les entrées, les sorties dans le mouvement zapatiste. Parce qu'il y a aussi l'émigration. Il y a des zapatistes qui décident de jeter l'éponge et qui quittent le mouvement pour tenter de migrer, pour aller travailler dans le secteur de la construction à Cancun, pour tenter de rallier les États-Unis. Ces phénomènes-là qui se passent dans la société mexicaine se passent également dans la société zapatiste. Sur le CCRI CG, donc... Oui, c'est l'instance suprême du commandement clandestin révolutionnaire indigène, commandant général, qui existe depuis le départ, évidemment. Et là, on ne retrouve que des commandants et des commandantes indigènes. Je ne me suis peut-être pas bien exprimé tout à l'heure, mais les deux sous-commandants dont on parle le plus aujourd'hui, le sous-commandant Moïse indigène et le sous-commandant Marcos, eux sont responsables de l'armée zapatiste comme instrument militaire, qui ne pèse pas beaucoup, mais qui existe tout de même, et son porte-parole également de la rébellion indigène. mais ils doivent rendre des comptes au CCRI-CG, qui est cette instance de commandants indigènes et de commandantes indigènes qui se sont renouvelées ces dernières années, parce qu'il y en a quelques-uns, d'ailleurs, la commandante Ramona, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est décédée, le commandant David aussi, que je connaissais bien, est mort également d'un cancer, il y a toute une nouvelle génération qui apparaît. Et alors sur la question de l'élection, oui, je pense, mais c'est énorme pourtant, je devrais le savoir, mais je pense que ces commandants ont été élus, mais je n'ose pas là tout d'un coup l'affirmer, parce que à la différence des autres instances dont je vous ai parlé, donc les conseils de bon gouvernement, les municipalités, les assemblées communautaires, là elles fonctionnent, elles se sont mises à fonctionner sous nos yeux, et là ils nous expliquent bien que les représentants, les délégués, en tous les cas, sont régulièrement et sans cesse d'ailleurs élus, remplacés, renouvelés, etc. Par contre, dans le CCRI, qui préexistait au soulèvement de 1994, c'est lui qui s'est responsabilisé de la prise de décision du passage du soulèvement armé, après avoir consulté les communautés. Hein. Mais c'est lui qui a pris la décision in fine de passer à l'acte. Et ce CCRI donc, préexistait à 1994. Et à ce moment-là, est-ce que ces commandants avaient été élus ou choisis dans leur communauté? Très probablement, mais je n'en suis plus très sûr maintenant. Je n'en suis plus sûr à 100%. Voilà ma réponse partielle à votre double question.
Alors, on a aussi une question de Fabien. Donc, écoute, Fabien.
Oui, bonjour à tous et merci pour cet exposé fort intéressant qui me fait faire un parallèle avec ce qui se passe au Rojava. On a des formes de résistance au capitalisme et d'autonomie qui sont assez ressemblantes, en fait. Et du coup, ma question rejoint un petit peu celle de Didier, c'est-à-dire comment se fait la désignation des porte-paroles et de ceux qui exercent des charges? Est-ce que c'est par élection? Est-ce que c'est par tirage au sort? Est-ce que c'est par l'assistance au sein d'assemblées, de groupes, de bureaux, etc. Est-ce que, s'il y a élection, est-ce que les personnes sont mandatées avec un mandat impératif, c'est-à-dire qu'elles ont une mission confiée par les bases ou pas, qui est une bonne pratique démocratique? Est-ce qu'il y a reddition de comptes, révocabilité, contrôle par des instances extérieures de ceux qui sont titulaires de charges? Et est-ce qu'ils utilisent le tirage au sort? Voilà, merci beaucoup.
Oui, merci. À la plupart de vos questions, la réponse est oui. Pour ce qu'on en sait, en tous les cas, sauf à la dernière, le tirage au sort, ça, par contre, j'en ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler, donc a priori, c'est non. Mais pour une fois, je ne vis pas avec eux, et peu de gens, même Bachet, parce que ces questions-là reviennent régulièrement, et moi je les pose à des gens qui connaissent mieux la réalité que moi, et ils ne savent pas en répondre davantage que ce que je vous dis là. Mais donc oui, à vos différentes questions, les mots auxquels je vous ai invité à être attentif tout à l'heure quand je parlais comment s'organisait cette architecture politico-administrative, ils sont inlassablement répétés. Donc oui, les délégués sont choisis en assemblée. Alors comment se passe, est-ce que c'est des votes secrets? Non, je ne pense pas. Mais les délégués sont choisis par ces assemblées communautaires d'abord, qui choisissent leurs propres représentants, qui montent dans les assemblées municipales, et c'est là que se constituent les conseils de bon gouvernement. Rotation incessante, ils ne cessent d'insister là-dessus. Je vous ai dit que selon ce qu'ils nous en disent, au niveau des conseils de bon gouvernement, c'est-à-dire au niveau le plus élevé, ce sont des mandats de quelques semaines, au maximum quelques mois. Et au niveau des municipalités, ce sont des mandats de 2 à 3 ans, d'après ce qu'on en sait, encore une fois. Révocabilité totale, c'est le mot qui est censé s'employer, révocabilité immédiate. Mais les procédures pratiques et techniques d'une région à l'autre, je ne les connais pas, évidemment, mais révocabilité immédiate de tous les mandats en cas de problème, oui, parce que des instances de contrôle, il y en a. Et ça, en effet, je ne l'ai pas cité faute de temps, mais des commissions de seguimiento, des commissions de suivi, des commissions de vigilance, ce sont des instances qui existent également dans tous les rapports que les apatistes nous ont faits de la façon dont ça se passait dans leur propre municipalité. Donc, oui, révocabilité, oui, contrôle, vigilance. Si vous voulez être plus concret, hein, enfin, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin que ce que je vous dis là, parce que, encore une fois, il y a peu d'éléments concrets en plus à ajouter à ce que je vous dis là, mais c'est raconté en long et en large dans des récits très, très lisibles, dans ces fameux cahiers de la petite école. Ce n'est pas la Bible, il n'y a pas que ça, mais c'est tout de même la principale production écrite des apatistes eux-mêmes qu'ils ont réalisée justement pour nous expliquer la façon dont ça se passe. Et donc les quadernos là, que vous avez vus, enfin, je ne vais pas remettre le PowerPoint parce que je ne suis pas hyper à l'aise avec ça, mais les quadernos que vous avez vus en photo dans... Je vous enverrai le PowerPoint, mais... Les quadernos que vous avez, les cahiers que vous avez vus en photo là, ils sont accessibles, tout le contenu accessible sur Internet maintenant sur le site Zapatiste, enlace.zapatista, quelque chose comme ça, enlace Zapatista. On a accès au contenu de ces cahiers et là vous allez trouver une compilation de récits qui racontent de manière très concrète, parfois dans un langage bien plus oral qu'écrit, avec des gros mots et tout, il y a tout. La façon dont ça se passe. Et il y a sans doute beaucoup plus d'illustrations pratiques que ce que je vous dis là, mais oui, ce que vous venez de poser comme question, oui, élection, mandat révocable, contrôle, etc., etc. Par contre, tirage au sort, encore une fois, j'en ai pas entendu parler une seule fois. Et donc, pour avoir plus d'éléments de réponse à votre question, je vous renvoie vraiment vers ces textes accessibles sur Internet. Vous ne les trouvez pas, j'enverrai le lien aux organisateurs.
À ce sujet, on a une question de précision, Bernard, si tu veux bien. Tu as parlé du livre qui est publié par le CETRI, qui est le dernier slide de ton PowerPoint. Est-ce que tu pourrais nous en rappeler le titre? Comme ça, j'essaye de le trouver sur le site du CETRI pour partager le lien. Zapatisme, j'ai partagé le mauvais lien.
Zapatisme 2. La révolution qui... la révolution... Lapsus révélateur. La rébellion qui dure.
Parfait.
La rébellion qui dure.
Merci Bernard.
Il y a une dizaine de textes d'auteurs mexicains qui répondent avec bien plus de détails que moi aux différentes questions que vous avez posées. En particulier, donc, ce texte-là, vraiment intéressant sur les défections, les sorties, les recompositions, le pourquoi des défections. De certaines communautés zapatistes, etc. Mais apparemment, ce n'est pas majoritaire, hein, parce qu'il y a toute cette question. Est-ce qu'à un moment donné, une certaine presse écrivait sur la mort lente du zapatisme, sur la défection, la diminution des effectifs. Mais chaque fois que cette thématique tend à gagner de l'importance dans les médias mexicains, les zapatistes répondent par une initiative qui prouve très concrètement le caractère toujours massif du mouvement. C'est notamment la fameuse mobilisation du 21 du solstice d'hiver du 21 décembre 2012, là où sans qu'on ait rien vu venir, encore une fois, 40 000 zapatistes ont défilé cagoulés en silence dans quatre grandes agglomérations du Chiapas, alors qu'on les disait mourants, inexistants, on n'avait plus entendu parler d'eux depuis 2-3 ans, il n'y avait plus de communiqué du sous-commandant Marcos. On disait que le sous-commandant Marcos était malade, qu'il était mort même, d'autres, enfin bref. Et donc, ils ont répondu par cette action massive. Et ils l'ont fait des dizaines de fois. Et puis, c'était cette nouvelle surprise de août 2019, là où, encore une fois, là où on s'entendait le moins, ils annoncent non pas la limitation, la restriction des zones d'influence zapatiste, mais leur expansion. Sont passés de 5 caracoles à 12 caracoles en août 2019. Preuve aux yeux des apatistes, donc de la bonne santé du mouvement. Vous avez donné le titre, oui?
On a trouvé le titre, on a partagé dans le fil de conversation. Et moi, j'ai encore une question. Si j'ai bien compris, il y a donc la coexistence de terres qui sont familiales et de terres qui sont communes, c'est ça?
Oui. Et selon des proportions très variables d'une région à l'autre, parce que j'étais intéressé par ça aussi, bien évidemment, mais on ne peut pas parler de socialisation des moyens de production généralisés, pour employer des mots bien connus. Mais c'est pour ça que je parle de priorité, hein, de prédominance de ça, etc. Donc oui, il y a priorité aux travaux collectifs, aux terres collectives. Le mot terre collective est moins souvent employé que travaux collectifs. Mais ce qu'on sait, ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est que chacun ou chaque famille a sa parcelle, dans le meilleur des cas, sa parcelle familiale, sa parcelle, mais il y a d'autres parcelles communautaires, mais selon des proportions vraiment très variables d'une région à l'autre. Et encore une fois, je vous l'ai dit, des régions qui sont aussi naturellement très différentes. Hein. Les basses terres et les hautes terres, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Hein. Là où on produit le café, là, ce sont des terres intermédiaires. Les basses terres, c'est où on produit les bananes, la canne à sucre, où il fait vraiment très chaud. Là, les propriétés de la terre, c'est différent. Donc là, on a des étendues de terre un peu plus importantes, mais sur les hauteurs de San Cristobal, là où il y a l'essentiel de... Enfin, c'est pas donné de proportion, mais une grosse partie du mouvement zapatiste survit, c'est au nord de San Cristobal, sur des hauts plateaux. Et là, vraiment, ça fait peine à voir, parce que la terre, il manque cruellement. C'est de tout petits lopins, mais vraiment de tout petits lopins qui sont insuffisants pour même une autosubsistance de qualité. Et des lopins sur des terres érodées. On est vraiment dans un territoire de terrain très, très accidenté, très, très érodé. Ce ne sont pas des terres très, très riches, donc.